Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, le blues de l'experte, Jocelyne Porcher. Il y a quelques années, vouloir discuter avec un amateur de chasse, lorsqu'on n'était pas soi-même chasseur, témoignait d'un goût du risque excessif. La conversation n'était pas encore entamée qu'on voyait déjà se profiler les invectives ou même les menaces. Plus près de nous, défendre son beefsteak, si j'ose dire, ou en tout cas affirmer son intention de continuer à manger de la viande, peut susciter des réactions d'hostilité ou d'incompréhension marquées. Les questions relatives aux animaux ont des propriétés étranges. Elles génèrent des réactions violentes. Que cette violence soit celle de l'indignation, de la peur ou de l'indifférence. Comme si un ver déformant se dressait entre nous et ces compagnons de nos existences que sont les animaux. Animaux de compagnie, animaux domestiques, animaux d'élevage. Ce ver déformant rend difficile de comprendre les problèmes et d'y remédier de manière satisfaisante. Ainsi, quand parce qu'on soupçonne une grippe aviaire, on abat des milliers de canards et d'oies dans le sud-ouest de la France. Quand parce que des brebis attrapent une maladie non contagieuse, non transmissible aux humains, on leur inflige de force un vaccin non testé auparavant et qui provoque des avortements en masse. Quelle mouche piquent donc les autorités dites sanitaires? Mais aussi, lorsqu'une association de défense du bien-être animal dénonce les conditions atroces de l'abattage dans des abattoirs municipaux, rien à dire. Le scandale est réel et l'indignation est nécessaire. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas dénoncer la fermeture de la plupart des petits abattoirs, remplacés par des usines à tuer, de moins en moins nombreuses, de plus en plus gigantesques, qui entraînent des longs trajets pénibles pour les bêtes, des conditions de travail éprouvantes pour les employés, une dureté qui ne peut que conduire à plus de dureté encore. Alors que lorsque quelques éleveurs respectueux de leurs animaux et de leurs conditions de vie et de mort demandent depuis des années le droit d'abattre chez eux, sur place, des animaux qu'ils ont élevés, qui est-ce qui les entend? Ni les pouvoirs publics, en tout cas, ni les défenseurs d'une certaine cause animale. Les uns ne voient dans la mort qu'un expédient pour gérer les crises, les maladies, les surproductions, gérer les flux consommatoires, les stocks, les courbes de prix. Les autres refusent d'envisager la mort, celle qui vient au bout d'une vie bonne, comme l'appelle Jocelyne Porcher, celle qu'il faut regarder en face, assumer, mais sans se laisser hypnotiser. La mort des animaux est un moment, un point final à une vie qui est bien plus longue, bien plus riche et plus nourrie de sentiments et d'échanges chez les petits éleveurs que dans les usines à troupeaux, que ces usines soient destinées à engraisser les bêtes ou à les transformer en minerais de viande. Pourquoi faudrait-il choisir entre ces usines de cauchemar et un autre cauchemar que serait une vie sans animaux?
France Culture, Terre à Terre.
Ruth Stegassi.
Ah, vous renaclez un petit peu, Jocelyne Porcher, quand je vous propose un blues de l'expert. Vous trouvez que vous avez déjà suffisamment d'ennuis comme ça et que c'est pas la peine d'en rajouter? La première fois qu'on s'était rencontrés, c'était à Paris. Vous étiez chargée de recherche à l'époque. Vous occupiez des relations homme-animal. Et je me souviens qu'on avait évoqué le fait que vous aviez pratiquement créé ce poste à l'INRA, qui n'existait absolument pas auparavant. Nous voici aujourd'hui dans votre bureau à Montpellier, toujours à l'INRA, où vous vous occupez, dites-vous, dorénavant, des relations de travail entre les hommes et les animaux. C'est nouveau ?
Non, en fait, c'est le début de mes recherches qui correspond à au prolongement de ma thèse et ce sur quoi j'ai été recrutée, c'est la souffrance au travail. En fait, j'ai fait ma thèse sur la relation affective entre humains et animaux, entre éleveurs et animaux. Mais en fait, ce que j'ai mis au jour, c'est en partie non seulement la relation affective entre éleveurs et animaux, mais aussi ses conséquences, c'est-à-dire la souffrance des éleveurs, en fait, du fait de l'organisation du travail en élevage. Et à l'époque, et d'ailleurs toujours, il n'y avait personne qui travaillait sur la souffrance au travail à l'INRA. Et donc, j'ai été recrutée là-dessus, sur la souffrance au travail en élevage.
Mais donc, ça concernait plus les éleveurs, ou c'était déjà fortement les éleveurs et les animaux?
C'était les éleveurs et les animaux. En fait, j'ai travaillé, ce que j'ai mis au jour, c'est une espèce de contagion de la souffrance entre éleveurs et animaux. Donc le constat que la souffrance des animaux Qui était mis au jour par la société civile et par... Parler de souffrance, c'est déjà un parti pris, puisque, par exemple, mes collègues à l'INRA, ils travaillent sur la douleur des animaux.
Vous avez prononcé deux mots, là. Douleur et bien-être.
Ben oui, ces deux mots-là ne m'intéressent pas et ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'est les conditions de vie, les conditions de vie au travail, en fait, la vie en élevage, et justement, le bonheur et la souffrance qui sont reliés. Et donc, qui n'ont rien à voir avec la problématique du bien-être animal, ni avec la douleur. En fait, je pense que s'il ne restait plus que la douleur à travailler dans ces systèmes, en fait, ça serait simple, quoi. Le problème, c'est que ce n'est pas de la douleur dont il est question, et pour les hommes et les animaux, c'est de la souffrance.
Mais quelle différence faites-vous ?
La douleur, c'est physique. Par exemple, on castre un cochon, il a mal, on met le mercurochrome, je ne sais pas quoi. Mais autour, par exemple, de cette pratique, il y a la souffrance de la truie, qui n'est pas de la douleur, parce que physiquement, elle n'éprouve pas de la douleur, mais elle éprouve de la souffrance à voir son petit, à entendre son petit gueuler à côté d'elle, là, elle se demande ce qu'il a, et etc., etc. Et elle le manifeste, parce qu'elle grogne, elle gigote dans sa cage... Et puis, il y a la souffrance du travailleur contraint de faire cette castration, qui a du sens ou qui n'en a pas, qui a des répercussions psychiques dont tout le monde se fout, enfin voilà.
Donc ça, c'était votre terrain de travail. Au même moment, effectivement, nombre de vos collègues s'intéressaient, eux, au bien-être animal. Et c'est finalement, me semble-t-il, l'expression qui est la plus reconnue dans le grand public.
Oui, mais c'est bien le problème, justement, que cette problématique scientifique du bien-être animal là, qui a émergé dans les années 80 et qui a été construite par des biologistes, comme son nom l'indique, elle est complètement centrée sur l'animal et sur les capacités d'adaptation de l'animal au système industriel, en fait. Elle a été prise comme telle, alors peut-être que c'est lié à l'origine anglo-saxonne, enfin anglaise, du terme animal welfare, et donc du coup, une appropriation par le grand public, la société civile... C'est vrai que les associations de protection animale parlent de bien-être animal, les scientifiques parlent de bien-être animal, et derrière, en fait, c'est pas la même chose. Mais c'est difficile de le mettre au jour.
C'est-à-dire, vous ne sauriez pas vous-même définir la nuance que vous voyez entre les deux ?
Si, par exemple, mes collègues de l'INRA qui travaillent sur le bien-être animal, et c'est des biologistes pour la plupart, ils font des expérimentations, ils font des comparaisons statistiques, ils mettent un animal dans telle condition pour dire ils préfèrent le caillebotis plutôt que le pré, voilà, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est dans une association de protection animale et qui dit qu'il milite, par exemple, pour le bien-être animal, en fait, dans sa tête, ce que la personne veut, c'est changer les conditions de vie des animaux, mettre les animaux au pré, qu'ils aient des bonnes relations avec leur éleveur, qu'ils soient bien traités, et surtout, d'ailleurs, qu'ils aient un rapport à la nature qui correspond au tempérament de l'animal, quoi, enfin... C'est pas du tout une vision biologique de l'animal, au contraire, c'est une vision très subjective et relationnelle. Et pourtant, c'est le même terme de bien-être animal. C'est pour ça que moi, je pense que ça fait 30 ans que cette problématique scientifique existe, ça fait 30 ans qu'elle reçoit des financements monstrueux de la part des États, enfin, dans toute l'Europe, et aux États-Unis, mais moins, mais en Europe, des financements des États plus de la communauté européenne, donc des financements extraordinaires, quoi, franchement. Pour des résultats qui sont égaux à zéro, quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration de la condition
Pour moi, je connais les systèmes industriels depuis les années 90. Maintenant, quand j'en entends parler, quand j'y retourne, non, il n'y a rien de changé. Entre les 1000 vaches et ce que j'ai connu, c'est pire. Parce que cette problématique du bien-être animal, en fait, elle a servi à améliorer les systèmes industriels sur des éléments sociétalement difficiles à accepter, mais elle n'a pas changé ni le statut de l'animal dans ces systèmes, ni le système lui-même, ni le sens du travail, ni les conditions de travail.
C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a amélioré, ça serait plutôt l'image et la perception du public, c'est ça ?
Eh bien oui, ça a permis de diffuser l'idée que ces systèmes industriels, en fait, ils étaient incontournables. C'est ce qu'on entend toujours, qu'on ne va pas nourrir le monde sans ces systèmes. Et que, Dieu merci, y avait des scientifiques qui s'occupaient de bien-être animal et des gens de la société civile via les associations de protection animale donc, qui militent supposément pour le bien-être animal. Voilà, tous ces gens s'occupaient du bien-être des animaux et qu'au fond, c'était...
Dormez, braves gens, on s'occupe de tout.
Exactement, tout n'était pas si mal. Et voilà, et du coup, ça, le côté vraiment grave, c'est que ça a empêché l'émergence d'abord d'autres questions d'un point de vue scientifique, l'émergence d'autres questions, comme par exemple celle des conditions de travail, qui sont, moi, celles qui m'intéressent. Et puis le fait, en fait, ça a complètement fermé cette question des conditions de vie des animaux dans ce système et plus largement en élevage à la biologie.
Ça les a cantonnés, voulez-vous dire ?
Ça les a cantonnés à la biologie, voilà. Alors qu'en fait, c'est pas la biologie, c'est une science dite de la nature. Enfin, par exemple, ce sur quoi je travaille, c'est une approche de ces conditions de vie des animaux et des transformations des systèmes, mais du point de vue des sciences sociales, parce que le travail qui réunit les hommes et les animaux là-dedans, c'est une question sociale, c'est la construction des rapports sociaux à l'intérieur d'un système d'élevage, d'un système de production. Ça n'a rien de biologique, quoi. Alors maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des questions, par exemple, effectivement, qui peuvent être posées ponctuellement sur telle ou telle pratique. Est-ce que c'est utile d'écorner enfin, les vaches, les veaux, est-ce que ça fait mal, enfin, questions comme ça. Mais par exemple, sur la castration, la vraie question à poser, c'est est-ce que la castration est utile, dans quel système, et si elle est utile, nécessaire, comment on fait pour minimiser la douleur, là? Et dans ce cas-là, est-ce que les analgésiques, ça marche? Voilà des questions très vétérinaires, en fait. Mais la question, c'est dans les systèmes industriels, à quoi sert cette castration? De quoi elle est le symptôme, en fait, dans le système, quoi? Enfin, est-ce que c'est utile de castrer des porcs qu'on va tuer à 5 mois et demi? D'ailleurs, en fait, la réponse qui est donnée par le système industriel, ça a été une réponse chimique, puisque finalement, maintenant, dans beaucoup de systèmes, ils utilisent un vaccin, entre guillemets, chimique, là, qui est l'improvac.
Qui fait de la castration chimique.
Voilà, une espèce d'hormone là, qui fait de la castration chimique, donc qui permet de supprimer la tâche de castrer, qui permet quand même d'avoir des animaux castrés, et qui donc fait gagner du temps et de l'argent au système. Puis qui en même temps voilà, fait tourner tout le business.
Mais alors là, Jocelyne Porcher, la question se repose peut-être même encore plus. De fait, à quoi sert de castrer des animaux qu'on va tuer de toute façon à 5 mois et demi dans ces élevages industriels ?
Justement, là, alors quand on se pose la question comme ça et qu'on veut. Par exemple, il y a les méthodes danoises voilà, où ils tuent les animaux encore plus tôt. Et donc, mettons, à 4 mois et demi, voilà. Donc,
pourquoi ?
Parce que la castration, elle est justifiée par le fait que les carcasses, chez les mâles, peuvent avoir une odeur de gras.
Il y a une montée hormonale, en fait,
voilà,
c'est ça ?
C'est lié au développement hormonal chez le verra, quoi. Donc, plus on tue l'animal jeune, et plus on minimise le risque d'apparition de cet inconvénient, quoi. Mais on peut aussi contrôler toutes les carcasses, par exemple, pas avec des machins adaptés, quoi. Enfin, et puis, si on considère, par exemple, des systèmes d'élevage de porcs lourds, où là, la castration, elle est peut-être, par exemple, si on tue un cochon à 18 mois, quelque chose comme ça, bon, là, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être utile de castrer, ce qui s'est fait historiquement. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'utiliserait pas des analgésiques et des anesthésiens locaux, là, qui ont une durée d'efficacité limitée, mais
comme chez le dentiste.
Voilà, comme chez le dentiste. Voilà. Mais c'est vrai que c'est certaines pratiques comme ça, en fait, par les réponses qu'on leur apporte, on leur renvoie bien à la légitimité que se donne un système, à la construction du système.
Ce système industriel, Jocelyne Porcher, il faut peut-être que vous rappeliez en quelques mots, bon, ce qu'il est, on le sait, mais peut-être la manière dont il fait de l'ombre au système traditionnel. De telle manière qu'on en vient à ne penser les animaux que dans ces élevages industriels.
Oui, mais c'est vrai que ces systèmes-là, ils invisibilisent tellement les animaux. À la fois, on ne voit plus les animaux, mais à la fois, on voit cette abondance dans les supermarchés. À la fois, tout paraît normal et tout paraît bizarre. Quoi, voilà. Où sont ces animaux, quoi, en fait soit on se pose la question. Soit on ne se la pose pas et on accepte la réponse voilà, qui est donnée par...
C'est-à-dire qu'on le sait, mais qu'on n'y pense pas, on n'a pas envie d'y penser.
Oui, voilà, je crois que c'est ça. Mais c'est à la fois des positions individuelles et à la fois un processus, enfin, le résultat d'un processus qui est sur le temps long, puisqu'à mon sens, justement, cette dépossession de la relation à l'animal et de l'alimentation, elle date vraiment du 19e siècle, du capitalisme, la mise en place du capitalisme industriel, de la mainmise des industriels et de la science sur l'élevage, c'est une co-construction du producteur, du consommateur dans la société capitaliste, voilà, qui d'un côté produit l'invisibilisation des animaux, puis de l'autre l'acceptation progressive de cette invisibilisation. Alors peut-être qu'aujourd'hui on est à un point de rupture justement où, du fait du changement de statut des animaux, et des changements de sensibilité à l'égard des animaux, du fait des questions sanitaires, des scandales de ci, de là, il y a problèmes climatiques, changements climatiques, enfin bref, tout ce qui est en question aujourd'hui fait qu'on se redemande effectivement où sont les animaux, quoi, et quelle place ils ont dans nos sociétés, et qu'est-ce qu'on mange, et pourquoi on mange les animaux, etc. Quoi.
C'est assez curieux et intéressant, Jocelyne Porchet, de vous entendre énumérer vraiment un nombre assez important des questions qui se posent effectivement aujourd'hui, qui sont toutes des questions qui ont partie liées à l'écologie, en fait, et à la façon dont on a causé des dégâts sur la Terre, et de voir que toutes ces questions, en effet, sont là, au cœur de la question animale, dans le même temps où, vous le dites et vous l'avez répété plusieurs fois, dans vos nombreux livres, vos articles, vos interventions, les animaux restent invisibles, mais invisibles pas seulement lorsqu'ils sont dans des élevages industriels. Si on revient par exemple sur la question du travail des animaux, vous avez publié un article avec Tiffen Schmidt dans lequel vous parlez du fait que la sociologie du travail ne s'est jamais intéressée au travail des animaux. Et quand on lit ça, c'est vrai qu'on sursaute, on se dit mais de quoi parle-t-elle ?
C'est vrai qu'il y a déjà, de toute façon, une invisibilité du travail. Dans la clinique du travail, psychodynamique du travail, c'est souligné que le travail, il est invisible. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si le travail des humains est invisible, le travail des animaux l'est complètement aussi. Et encore plus, puisque si on s'intéresse à l'invisibilité du travail humain, la question du travail animal, ce n'est pas posée du tout. Quoi.
Comment ça ? Il y a quand même Christophe Dejour, il y a quand même un certain nombre de sociologues qui ont travaillé sur le travail, justement.
Ah oui, sur le travail humain, oui, oui, sur le travail humain, et justement cette invisibilité du travail humain qu'ils ont mis au jour pour expliquer pourquoi il est invisible du fait qu'il est le résultat d'un investissement subjectif de la personne qui n'est pas résumé dans l'objet, mais qui est dans l'élan que la personne met à produire, à faire ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que l'animal, malgré qu'il soit, depuis le début de la domestication, en fait, investi avec nous, alors dans ce qui ne s'est pas appelé, évidemment, avant le travail, mais quand on a commencé à tirer la charrue avec des bœufs ou à utiliser les chevaux pour circuler, etc., bon, on est bien dans une coproduction d'un bien ou d'un service ou de quelque chose, voilà. Une coproduction, oui, où l'animal, ou sans l'animal, ben, la production ne se fait pas, quoi. Donc,
coproduction ou exploitation ?
Je pense que la question, on peut poser la question de la même façon qu'on la pose pour le travail humain. Ben on peut suivre Marx sur les deux volets, le travail comme émancipation et comme force
d'accomplissement.
D'accomplissement et de rapport à la nature. Ben d'où, enfin, dans ce rapport à la nature, on extrait notre propre liberté, quoi. Grâce au travail. Et puis, dans un contexte social donné, des conditions d'organisation du travail, des conditions des rapports de force qui font que, on aboutit à complètement défaire le travail et à en faire une source d'aliénation. Quoi. Il y a les deux volets dans le travail, c'est vrai. En système industriel, on est dans un lieu d'aliénation, mais pas seulement, puisque dans toute activité, il y a quand même des marges d'émancipation et de créativité. Quoi.
De même qu'on ne peut pas dire que ce système industriel soit le premier jalon dans l'histoire de l'aliénation humaine.
Non, ça c'est sûr. Mais là, il est intéressant parce qu'il aliène aussi les animaux. Quand on voit détruits dans leur cage, là, du début à la fin de leur vie, tous ces animaux entassés, ces volailles entassées par milliers, là, les veaux, là, les projets de milliers de veaux, là, etc. Enfin, tous ces animaux traités comme des choses.
De la matière première.
Voilà, si on prend leurs conditions du point de vue du travail, on est complètement. Enfin, on ne peut pas du tout parler d'émancipation.
Mais vous dites, dans un livre auquel vous avez participé, Jocelyne Porchet, Le Yin et le Yang, aux éditions du Miroir, vous dites qu'à chaque époque, hommes et animaux ont eu en fait des conditions parallèles. Que lorsque l'homme était esclave ou serf, les animaux étaient esclaves ou serfs, que lorsque l'homme a dû faire du travail de force, eh bien, les animaux étaient également des bêtes de somme, mais que dans ce système industriel, en effet, cette chosification, enfin, le terme n'est pas de vous, là, c'est moi qui interprète, cette chosification des animaux rejaillit et éclabousse également les hommes qui travaillent avec les animaux.
Bah oui, c'est un volet qui est ignoré des défenseurs des animaux, de ceux qui revendiquent leur libération. C'est que cette libération des animaux, on suppose que ces libérateurs, défenseurs des animaux, veuillent le bien des animaux.
De quelle libération parlez-vous là ?
Bah, par exemple, tout le courant de la libération animale que j'appelle défenseur des animaux, qui milite, pour le dire vite, pour une rupture des liens de domestication et une sortie des animaux, en fait, des rapports sociaux et du travail. Mais donc, leur angle de vue ne se porte que sur les animaux, sans voir justement que partout où il y a des animaux domestiques, puisque c'est la domestication, leur cheval de bataille et le lieu de leur critique, partout où il y a des animaux domestiques, il y a des humains, quoi, que c'est effectivement, tout au long de l'histoire... Avec les animaux maltraités, il y a des humains. Enfin, sur les champs de bataille, il y a des chevaux, mais il y a des cavaliers. Dans les porcheries, oui, il y a des gens, il y a des truies. Partout, quoi. Partout, les animaux sont maltraités. Dans les mines. Dans les mines, au moment de au 19e siècle, au moment où est votée la loi Gramont là, pour protéger les chevaux de la brutalité ostensible, enfin, ouverte des cochers, bah, il y a des enfants qui descendent dans les mines. Donc, c'est vrai qu'il y a une condition humaine et animale qui est la même, en fait, même si on n'est pas des animaux. Un cochon est un cochon, une vache est une vache, un humain est un humain, et on ne vit pas dans le même monde. Mais ce qui nous rapproche, c'est le monde du travail. Et cette condition humaine et animale, elle est la même parce qu'elle est liée au travail, quoi. C'est le travail qui fait que, eh ben, on est, oui, des bêtes de somme, ou des gens heureux, quoi. Voilà, des individus heureux. Dans un élevage, par exemple, aujourd'hui, chez des éleveurs que je connais, ben oui, il y a des animaux qui sont heureux, avec des éleveurs heureux, comme m'avait dit d'ailleurs un éleveur, que chez lui, c'était ça. C'était des animaux heureux avec des éleveurs heureux. Voilà. C'était ça son système d'élevage, quoi. Et justement, c'est ce sur quoi fait l'impasse la théorie, enfin, la problématique du bien-être animal, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de bien-être des animaux, non pas sans bien-être des éleveurs, mais sans... C'est le bien-être, c'est pas le mot, mais sans...
Sans prise en considération des conditions.
Sans partage, voilà, sans... C'est pas le bien-être. Quand on est avec des animaux, quand on est éleveur, on n'est pas bien du soir au matin, même si on est heureux. Il y a des moments où on est malheureux, et il y a des moments où les animaux aussi sont malheureux. Ben, les vaches, quand on leur retire leur veau, elles ne sont pas spécialement contentes. Quand l'éleveur il perd un animal, il n'est pas spécialement content. Enfin, voilà, c'est pas du bonheur 24 heures sur 24, même dans un système où l'éleveur dit que oui, il est heureux et qu'il a des animaux heureux, quoi. Enfin, je crois que c'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est que c'est le travail qui fait notre condition commune, quoi, et notre destin commun, en fait, parce que notre avenir, l'avenir de nos rapports de domestication, ils sont vraiment liés au travail. Si on suivait les défenseurs des animaux dans leur idée qu'il faut rompre avec les liens de domestication pour libérer les animaux, pour qu'ils soient enfin eux-mêmes, qu'ils vivent de ces zoos d'ailleurs, mais bon, ben, en fait... On perdrait toute la richesse de ce qu'a produit ces liens de domestication, c'est-à-dire voilà, un monde partagé entre les hommes et les animaux grâce au travail.
Et de fait, Jocelyne Porcher, il y a énormément de possibilités de cette coexistence homme-animal au travail. On n'y pense pas nécessairement, mais j'aimerais que vous nous en citiez, parce que c'est vrai que quand on vous écoute, au fur et à mesure, ça tombe sous le sens. Mais si ce n'est qu'on a du mal à y penser. Ça rejoint ce que vous disiez sur l'invisibilité du travail et des animaux au travail.
Ah oui, parce que ce qui est un paradoxe, c'est que à une époque où justement les liens de domestication sont remis en cause par des gens qui, au nom de l'éthique, disent que c'est mal de s'approprier les animaux, c'est mal de les avoir domestiqués, il faut les libérer, etc. Et que par ailleurs, concrètement, du point de vue de l'alimentation notamment, on pourrait effectivement vivre sans les animaux domestiques. En fait, aujourd'hui, d'une certaine manière, il pourrait ne rester que la relation comme fondement du lien. Or, justement, l'entrée par la question du travail montre que la relation, elle n'existe pas, en fait, en dehors du travail, puisque c'est le travail qui fait cette relation.
Ça me paraît curieux, parce que y a, au contraire, me semble-t-il, une inflation d'un type de relation bien particulier, qui est la relation aux animaux de compagnie. Il y a aujourd'hui d'autant plus, peut-être, d'animaux de compagnie qu'il y a moins d'animaux pour le travail, non ?
Non, enfin, moi, je fais l'hypothèse que les animaux de compagnie travaillent, justement. Ils sont... enfin, moi, j'ai un chien de compagnie, après avoir eu des brebis. Je vois pas la différence, hein, personnellement, sauf que j'en ai qu'un, sauf que j'ai pas à la tuer, et sauf qu'elle elle me coûte des sous au lieu de m'en rapporter, et ce qui fait que, bah, voilà, c'est justement pour ça que j'ai pas à la tuer.
Mais qu'est-ce que c'est son travail ?
Son travail, c'est de me tenir compagnie. C'est comme son nom l'indique. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Enfin, ça, on ne l'a pas encore travaillé là dans notre groupe, mais c'est vraiment quelque chose moi, qui m'intéresse vraiment. Enfin, tout m'intéresse dans cette histoire, mais ça particulièrement. C'est d'essayer de mettre au jour, justement, en quoi le fait d'être un chien de compagnie, guide de compagnie, correspond à un travail de compagnie. C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait être fait par un humain ? Enfin, puisqu'on dit qu'il y a des dames de compagnie, des gens de compagnie, des gens qui viennent tenir compagnie. Est-ce que c'est pareil ? Voilà, de quoi est fait ce travail de compagnie ? Enfin, je pense que c'est une hypothèse qui a du sens.
Mais qu'est-ce que vous rangez d'autre dans la catégorie travail ? Alors, c'est ça que je vous demandais.
C'est pour ça que je disais ça, c'est qu'il y a, en même temps qu'il y a un mouvement pour défaire les liens de travail, il y a un mouvement inverse pour au contraire enrôler de plus en plus d'animaux dans le travail ou réenrôler des animaux qui n'étaient pas dans le travail. Par exemple, les chiens, il y a des chiens policiers, des chiens d'armée, des chiens d'assistance, des chiens d'aveugles, toutes sortes de métiers de chiens.
Chiens de chasse.
Chiens de chasse, ben voilà. Mais il y a aussi des animaux nouveaux. Enfin, je pense là, par exemple, à des vautours qui sont formés pour retrouver les gens disparus ou les gens morts en montagne lors des avalanches, tout ça. Des rongeurs ou d'autres animaux qui sont chargés de trouver les mines dans un...
Peut-être penser aussi aux primates qui sont chargés de s'occuper des personnes âgées.
Oui, voilà, ou dans des animaux d'assistance, en plus de tous les chevaux qui sont dans les centres équestres, les courses, etc. Plus les animaux de zoo. Donc on peut faire avec des collègues l'hypothèse que ces animaux y travaillent, en fait, que leur présence dans le zoo, leur présence face aux visiteurs, correspond à un travail qui a, avec l'hypothèse qu'ils ont une perception de ce qui est attendu d'eux, et que en fonction de cette perception, ils font ce qu'il faut. En l'occurrence, pas massacrer les visiteurs. Bon, il y a les animaux en parc animalier, toutes les bestioles qui sont dans les bassins, les otaries, les phoques, enfin, je sais pas, qui font des spectacles. Voilà. Ici, là, par exemple, en France, il y a ce type d'animaux. Dans d'autres pays, comme on a un étudiant qui a été faire des enquêtes au Burkina Faso auprès des âniers de leurs ânes, donc là qui sont encore chargés d'un travail de traction. Puis on a un collègue qui a étudié les éléphants en Inde, là où pareil, il y a encore un travail qui n'a pas été remplacé par la mécanisation et qui pose des questions nouvelles du point de vue des relations d'ailleurs à ces animaux. Enfin voilà, il y a des animaux qui avant n'étaient pas dans le travail, comme par exemple les vautours là, qui arrivent. Et puis d'autres animaux qui reviennent sous d'autres formes, par exemple les ânes, qui vraiment étaient en diminution drastique du fait de la mécanisation de leur travail. Et maintenant, ils ont été réenrôlés dans, par exemple, le tourisme, là, pour promener les touristes dans les montagnes. Ou alors, est-ce qu'on voit de façon plus récente pour transporter les enfants à l'école dans certaines villes, transporter les poubelles, réenrôler des chevaux, par exemple, ou des ânes, dans des métiers où il n'y a pas si longtemps, ils n'étaient pas du tout, quoi.
Mais quel lien faites-vous, Jocelyne Porcher, avec ces changements de mentalité que vous évoquez, ces protestations qui montent
Justement, je pense que c'est une dynamique contradictoire. Il y a une dynamique abstraite, en fait, il y a une dynamique qui est fondée sur une abstraction de philosophe qui dit que le sexisme c'est pas bien, le racisme c'est pas bien, le spécisme, le fait de préférer son espèce plutôt que l'autre c'est pas bien, donc il faut libérer les animaux du spécisme, c'est une vision complètement abstraite et complètement détachée des liens réels avec les animaux, mais qui a un effet, parce que ça conduit à faire de l'animal un prochain, et donc en fait de juger de sa condition à l'aune de la sienne propre, d'oublier complètement qu'un animal, c'est pas un humain, que son monde n'est pas le nôtre, et que le seul point justement où on peut se rencontrer, c'est le travail. C'est dans l'interface. L'interface des mondes, elle est construite par le travail. C'est quand on est en élevage, ou même là par exemple avec un chien de compagnie, même s'il est de compagnie, et il est dans son monde de chien, quoi. Quand mon chien va manger de la merde dans un coin, avec la tête barbouillée de merde et les poils complètement couverts de merde, elle est dans son monde de chien. C'est pas mon monde à moi. Mon monde à moi, c'est pas. Mais par contre, il y a tout un pan de notre vie en commun où on est bien dans le même monde. Le monde du langage, par exemple, puisqu'elle comprend ce que je dis. Et en élevage, c'est pareil.
Alors justement, Jocelyne Porcher, quand on vous entend parler des animaux qui travaillent, c'est une expression qui gratte un peu dans l'oreille. On a un peu du mal à se le représenter. Et de fait, là aussi, vous avez des exemples tout à fait édifiants et convaincants à raconter. Je pense à cette enquête de terrain qui a été faite dans un élevage de vaches laitières. C'était des Primolstein, donc vraiment pas ce qu'on peut considérer comme la vache la plus rustique et la plus proche de des ancêtres vaches.
Oui, bah c'est un des premiers terrains que j'ai fait sur le sujet, à partir du moment où je me suis dit, mais enfin, pour revenir en arrière, c'est cette question du travail animal. En fait, comme j'ai été éleveuse, elle m'a trotté dans la tête vraiment longtemps. En fait, je pense que je l'avais dans la tête en étant éleveuse, et notamment en relation avec un événement qui s'est passé avec mon chien de berger, enfin de brebis. C'est une anecdote, mais je l'ai entendu raconter aussi par d'autres éleveurs. Enfin, il est arrivé la même chose à d'autres éleveurs, c'est-à-dire, je le dis brièvement, un jour où je sortais mes brebis, comme d'habitude, on va au parc et tout, et j'étais très énervée, très de mauvaise humeur. Et donc, je donnais des ordres contradictoires au chien, qui était un chien qui savait ce qu'il faisait, puisque bon, on allait tous les jours, il faut pas aller dans les blés ici, il faut pas aller là. Enfin, il faisait son boulot sans que j'aie rien à dire, en fait. Et là, j'étais énervée, donc qu'est-ce que tu fous? Et mes espèces d'abrutis par ici, etc.
Vous devriez nous mimer la scène.
Et donc, le chien, il a fait ce qu'il a pu. Enfin, a posteriori, je l'analyse, hein, parce que sur le coup, j'étais dans ma furie. Et à un moment donné, c'était le désordre complet, quoi. Juste au moment d'arriver au parc. Quoi. Juste au moment, c'était des parcs mobiles, des filets que je déplaçais. Donc j'avais mis la veille. Donc il fallait que les brebis rentrent dedans, en fait. Et là, le chien était tellement perturbé. Les brebis, qui évidemment comprennent complètement ce qui se passe entre le chien et le berger, donc qui ont ressenti qu'il y avait un flottement, et elles en ont largement profité. Mais à un moment donné, le chien en a eu tellement marre qu'en fait, il m'a regardé et il s'est barré. Alors là, ma colère n'a plus de limite, surtout que quand les brebis ont vu le chien s'en aller, et alors que c'était le printemps, il y avait des petites pousses de blé là, et en plus c'était avec des voisins, on s'était déjà engueulés, donc il fallait surtout pas que les brebis aillent par là. Et évidemment, à peine le chien le dos tourné, les brebis se ruent sur le... en voyant que le chien se barrait. Donc en fait, voilà, le chien s'en va, il me plante là. En plus, il se retourne et il me regarde, l'air de dire « Bah, tu voulais la merde ?»« Bah voilà, tu l'as. » Vraiment, avec un air vraiment de dire ça. Donc bon, j'ai passé un temps, mais alors fou, à rentrer les brebis là-dedans. Sans le chien, j'étais... Enfin, elles sont finalement entrées. Et donc, j'étais super en colère après le chien. Je m'apprêtais à l'assaisonner. Je rentrais à la ferme... me disant dans ma tête, mais je vais l'assommer, je vais lui tordre le cou. Et en fait, quand j'arrivais à la ferme, de loin, je l'ai vu qu'il était assis près de la bergerie. Et au fur et à mesure que j'avançais vers lui, j'ai réalisé que j'étais très con, quoi, et que c'était de ma faute, quoi. Et quand je l'ai vu, quand on s'est regardé, Du coup, je me suis dit, j'ai bien vu que c'était moi vraiment l'idiote, et donc j'ai rien dit du tout. Et c'est là, quand même, ça m'a fait un choc, parce qu'en fait, j'étais super vexée. Mais ça fait 30 ans, ça, c'est pas récent. C'était pas du tout la mode de parler des animaux et tout ça. Donc en fait, d'ailleurs, je l'ai très peu dit, cet événement à l'époque. Mais j'étais très, très vexée, et je me disais, mais c'est ridicule d'être vexée, quoi, parce que c'est qu'un chien, quoi, c'est... En fait, je voyais bien que c'était pas ça le problème, quoi. C'était pas qu'un chien, et justement, ça montrait bien que c'était pas qu'un chien, etc., etc.
Et qui connaissait le boulot aussi bien que vous.
Voilà. Mais donc, sur le coup, ça m'a vexé après, voilà. Et puis avec le temps, je me suis dit, mais pourquoi on se sent vexé et humilié parce qu'un chien, finalement, se conduit plus intelligemment que soi. Et puis les brebis, voilà, qu'est-ce qu'elles font là-dedans? Parce qu'elles savent très bien ce que fait le chien, elles réagissent... Enfin voilà, je pense que c'est à partir de là que je me suis dit, quelque part, mais restée dans la tête cette question du travail, sur la base voilà, de cette leçon de travail par un chien, quoi, par mon chien.
Et donc ces vaches laitières, les Primolstein?
Alors bah, ces vaches laitières, donc du coup, bah, justement, à un moment donné, comme j'ai travaillé dans le labo de Christophe Dujour sur la question du travail, du coup, j'ai pu croiser en fait la question. De la place des animaux dans le travail et le rapport subjectif des animaux au travail à partir des théories du travail que j'ai apprises chez Dujour. Et donc, en 2007, je me suis dit, on pourrait voir ce que ça donne à partir de l'hypothèse donc, de la clinique du travail, que le travail est là où les procédures ne sont pas. C'est-à-dire que le travail, c'est pas de faire ce que le travail prescrit, il faut faire ci, il faut faire ça. Le travail n'est pas là. Le travail, il est dans ce qu'on met, justement, qui n'est pas prescrit, dans ce qu'on met de plus pour faire le travail.
Et qui permet justement d'accomplir la tâche.
Ouais, qui permet d'accomplir la tâche. Bon, c'est des choses qui ont été mises au jour par la clinique du travail, la psychodynamique du travail. Donc je me suis dit, on pourrait rentrer comme ça pour étudier la place des animaux dans le travail. Voilà. Et donc avec Tiffaine, on a été dans une exploitation avec un robot de traite en me disant, là, il y a une machine qui est supposée faire le travail de l'éleveur. Et j'avais l'hypothèse qu'elle faisait en fait le travail de la vache. Que la machine ne remplaçait pas l'éleveur, en fait, mais que c'est la vache qui le remplaçait en utilisant la machine. Voilà. En fait, c'est la vache qui faisait le travail de l'éleveur et non pas la machine. Voilà. Et donc, Tiffaine a fait un super travail. Elle est allée chez un éleveur pendant 3 mois, enfin, en observation participante. Elle faisait travailler avec l'éleveur, tout ça. Et on a monté un protocole d'observation des vaches, de 6 vaches. Donc, elle observait de telle heure à telle heure là, 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 les relations entre les vaches, les relations des vaches avec l'éleveur, les relations des vaches au robot.
Alors, il y a d'abord des éléments qu'on commence à connaître. Le fait que les vaches, effectivement, ont une vie sociale, qu'il y a des hiérarchies, qu'il y a des amitiés, qu'il y a même de la politesse.
Mmh. Oui, il y a tout ce qu'on sait des vaches, effectivement. Mais nous, ce qu'on cherchait, c'est justement tout l'invisible du fait. Invisible aussi aux éleveurs, d'ailleurs, hein, même s'ils en ont l'intuition. Que tout le quotidien ne pourrait pas être fait si les vaches n'anticipaient pas, ne collaboraient pas, ne faisaient pas ce que nous, on propose d'appeler justement du travail. Et là, c'est ce qu'on a essayé de montrer avec Tiffaine, c'est que dans tout le quotidien d'une journée de travail, bah, les vaches, elles anticipent quand il faut se pousser ou au contraire se mettre là. Elles savent ruser, en plus, parce que quand il y avait ce robot de traite, on a bien vu que même si l'éleveur disait « Allez, toi, tu vas au robot de traite », en fait, elle faisait mine d'y aller, mais si lui, il lui tournait le dos, hop, elle changeait directement. Puis comme elle a beaucoup filmé, en fait, on a vu des tas de choses très rigolotes, quoi. Où on voit très bien que les vaches, justement, elles savent qu'il faut aller au robot de traite, que l'éleveur le veut, mais elles n'ont pas envie et elles trouvent des ruses et des manigances individuelles et collectives, parce qu'on a même vu des vaches se cacher derrière d'autres vaches pour pas y aller, quoi.
Pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas y aller au robot de traite? Ça fait mal?
Non, c'est-à-dire dans un système avec robot de traite, là c'était un truc en 0 pâturage, donc en fait les vaches ne sortent pas, elles passent via le robot de traite d'une zone d'affouragement à une zone dite de repos.
Donc elles ne sont pas pressées de quitter l'affouragement en fait, c'est ça?
Si, non, c'est pas ça, c'est que bon, globalement c'est une vie complètement dénuée d'intérêt, quoi. Où nous, ce qu'on a vu, c'est qu'elles devaient faire un gros travail de pacification entre elles, même si c'est des Holstein, donc ils sont des vaches dites dociles. Mais quand même, vivre comme ça, 60 vaches, dans un milieu très petit, en fait, et en ne faisant rien, et en ayant des espaces de relations très raccourcis, il faut vraiment éviter le conflit, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on a vu par rapport au robot de traite, c'est que l'entrée dans le robot de traite, elle ne dépendait pas de la hiérarchie, parce qu'on aurait pu penser spontanément que c'était là. Bon, enfin, bien que moi, je suis très réservée sur l'histoire de hiérarchie chez les animaux, mais bref, c'était voilà, l'hypothèse.
Vous pensez que c'est une projection ?
Voilà, non. Ou c'est peut-être parce que j'ai travaillé avec des brebis, où j'ai jamais vu de hiérarchie chez mes brebis, avec des cochons. Les cochons, alors là, c'est peut-être pour ça que j'aime les cochons. C'est pareil, vraiment, la hiérarchie, c'est pas leur. Enfin bref, et donc en fait on s'est aperçu que c'était effectivement, elles entraient au robot, parce qu'elles se regroupaient du coup devant le robot, donc il y avait en fait une espèce de file d'attente avant d'entrer dans le robot, parce qu'elles font que faire un tour comme ça. Et donc celles qui passaient, alors bon non, elles n'étaient pas enthousiastes pour passer, voilà, elles passent parce qu'ils savent, voilà, et puis en plus ce qu'on a vu c'est qu'elles savaient, parce qu'entre 2 passages au robot de traite, je pense que c'était 6 heures, il fallait 6 heures, je pense que c'est ça. Et en fait, on s'est aperçu que la vache, quand elle rentrait dans le robot de traite et que ça ne faisait pas les 6 heures, en fait, elle le savait, parce que son comportement montrait qu'elle savait que le robot, la porte allait s'ouvrir tout de suite. Donc elle passait, parce que voilà, elle voulait passer d'une zone à une autre, mais qu'elle n'allait pas avoir de grain, qu'il n'allait rien se passer, quoi. Et donc les autres derrière, attendaient, enfin. On a vu une fois aussi une vache qui a bloqué le système carrément. Elle est restée plantée à l'entrée sans rien faire. Et Tiffaine est restée là à la filmer tout le temps une demi-heure. Quoi. Une demi-heure, à pas bouger d'un pouce. Alors les autres qui piétinaient derrière. Et elle qui était là, à bloquer la porte.
En fait, quand l'éleveur n'est pas là, les vaches font ce qu'elles veulent, quoi.
Oui, oui, là, elles avaient un espace, justement. C'est pour ça que c'est que l'entrée dans ce robot de traite, ben justement, c'est pas du tout prescrit. L'éleveur n'est pas là et elles doivent se débrouiller par elles-mêmes, quoi, en fait.
Mais alors là, on n'est pas du tout dans ce que vous décriviez tout à l'heure, Jocelyne Porcher, l'accomplissement d'une tâche grâce à ce qu'on apporte en plus. Là, on a plutôt l'impression que vous racontez des épisodes d'animaux qui font tout pour entraver, mais un peu à la manière de sale mioche, quoi.
Ben, c'est-à-dire, je pense, c'est une manière de résister à l'absurdité de leur vie. Hein. C'est une vie où il ne se passe rien. Ben, là, cette vache, elle avait trouvé... ce moyen-là de faire quelque chose pour que quelque chose change, quoi, qu'il se passe un peu quelque chose. Voilà,
Mais parce que de fait, il y a d'autres exemples que vous racontez où effectivement elles savent exactement ce qu'il faut faire et elles aident véritablement l'éleveur à faire ce qu'il a besoin de faire. Elles se placent exactement là où il a besoin qu'elles soient placées sans même qu'il le leur demande. Elles se poussent lorsqu'il faut. Elles savent.
C'est ça, effectivement. Et je pense que là, enfin, tous les éleveurs peuvent le voir. Quand ils arrivent avec une tâche à faire, les animaux ont anticipé, effectivement, de rester là où ils sont, au contraire de bouger. Mais en fait, ça paraît tellement spontané. Ça paraît tellement évident que, du coup, on se demande pas, mais comment ça se fait que si j'arrive avec un saut de scie, les vaches, elles savent que je vais faire ça et que donc, déjà, elles sont... à la place qu'il faut, au moment où il faut, quoi. C'est l'habitude et l'intuition, quand même, que les animaux savent ce qu'ils doivent faire, même s'ils ne l'ont pas appris, parce que c'est ça qui nous a surpris aussi quand on était là-bas avec Tiffany, c'est le fait que, pour l'éleveur, par exemple, au tout début de l'enquête, il nous a dit, de toute façon, ici, il y a des règles. Hein. Et donc, pof, 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 il aligne 10 règles, comme ça, il ne faut pas chier ici, il ne faut pas... 10 règles, d'ailleurs, négatives, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais très bing, 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 bing. Et donc les vaches doivent le savoir, voilà. Mais comment elles l'ont appris ? Enfin, elles l'ont appris par... elles se font engueuler si elles le font. Mais que de la façon dont ils le décrivaient, on aurait dit qu'il y avait un panneau à l'entrée de l'étable, là où il y avait tout ça, et que la vache qui respectait pas les règles, c'était vraiment de la mauvaise volonté. Mais sans voir justement quand même comment toutes ces règles sont apprises par les animaux, quelles sont celles qui sont acceptées, pas acceptées... Et puis, est-ce qu'il y a des aménagements ? Alors ça, on ne le voit pas dans un système comme celui-là, qui est un système très autoritaire et cruel, en fait. Mais dans d'autres systèmes d'élevage qui laissent plus d'autonomie aux animaux, tout ça, on peut voir que les éleveurs ont aménagé des règles, quand même. Qu'ils avaient posé une règle aux animaux, puis que les animaux, en fait, ont fait bouger la règle. Que finalement, ça ne se passe pas comme l'éleveur avait prévu au départ, quoi.
Juste avant que vous disiez ça, Jocelyne Porcher, j'étais en train de penser que ce système industriel que vous avez longuement évoqué au début de notre entretien rejaillissait jusque dans les élevages qui ne sont pas précisément de l'élevage industriel. Là, il s'agit d'un éleveur, de sa ferme, il n'a pas 1000 vaches. N'empêche que, de fait, je pensais à une expression que vous employez, directeur des ressources animales, le DRA. Et là, il a un petit côté DRA quand même, votre éleveur autoritaire.
Oui, oui, là, effectivement, on était dans un cas de... Mais là, cette histoire de directeur des ressources animales, elle est plus évidente au système industriel, quand même, parce que là... ça m'est apparu, parce que quand on écoute et les salariés et les producteurs, enfin, les 10 éleveurs de porcs, par exemple, on entend que toutes ces truies, c'est des travailleuses. Et puis, d'un point de vue visuel, quand on rentre dans une porcherie, on a quand même l'impression que c'est... Enfin, moi, à un moment donné, j'ai bossé dans une usine de textile avant de faire de l'élevage. Quand on rentre dans l'usine, on voit des gens alignés, la chaîne à côté d'eux, et puis voilà, comme ça, il y a des alignements, comme dans les abattoirs, par exemple. Si on regarde une chaîne de découpe à l'abattoir, on voit des gens alignés comme ça, qui sont chacun à son poste de travail. Et ça donne cette impression dans un bâtiment où il y a comme ça des milliers de truies alignées. Mais je l'ai entendu, en fait, en plus, il n'y a pas longtemps, lors de la pseudo-crise de l'élevage, là, par un producteur de porc, qui disait qu'il allait devoir, la crise, blabla, qu'il allait devoir licencier ses ouvrières. Et donc, il faudrait aller faire des enquêtes, encore plus, pour...
C'est passé complètement dans l'esprit.
C'est-à-dire que c'est souterrain, parce que si par exemple cette personne, la personne qui interviewait lui avait dit « vous ouvrières », en s'étonnant qu'il parle de ses truies, moi ça m'est arrivé de dire, un éleveur comme ça qui dirait ça, qui réponde C'est un peu comme ça quand même, mais bon, voilà, de bémoliser le truc en mesurant en fait les conséquences de ce qu'il vient de dire, quoi. Parce que si c'est des ouvrières, ça bouscule tellement de choses du point de vue de ses relations avec les truies que c'est pas facile à admettre qu'on vient de dire ça, quoi. Mais en même temps, son sentiment, et ça je l'ai bien, enfin, vraiment ressenti beaucoup en système industriel et chez les salariés notamment, et même voilà, là c'est un producteur, c'était pas un salarié, donc... Mais aussi, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit « Ici, c'est une PME, il y a 5 salariés. » Enfin, c'était un truc de 800 truies. Enfin, c'est une PME si on compte pas les truies. Voilà. Et ça, c'était pendant mes enquêtes. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'on ressent bien qu'on est... Et ça, on l'entend aussi chez les salariés quand elles parlent, par exemple, de ce que les truies ne font pas. Par exemple, elles écrasent leur porcelet. C'est... Vraiment, mais elle sabote le travail, quoi. C'est pas normal de saboter le travail comme ça, quoi. Et pourtant, elle le sait bien, quoi, qu'il faut pas écraser les porcelets, foutre le travail en l'air. Donc, voilà, la truie, elle est supposée être responsable de
son travail.
Son travail.
Mais c'est vrai que ce qui apparaît dans ce que vous dites, Jocelyne Porcher, c'est effectivement à quel point autant les animaux que les humains sont assujettis à un impératif de production. C'est-à-dire qu'on sent bien que tout ce travail dont vous parlez, ça n'est absolument pas le travail libérateur, le travail d'accomplissement de soi, le travail de réalisation de soi dont on pourrait rêver, mais vraiment une vie entière dévolue à la production, la production, la production.
Ben oui, c'est vraiment le résultat de 150 ans de prise en main des animaux et de la nature par le capitalisme industriel et le consentement, là, ce dont je parle dans le livre, là, le yin et le yang.
Les éditions du miroir.
Les éditions du miroir. C'est le fait que toutes ces productions animales et l'aliénation, la violence et tout ça n'existeraient pas sans le consentement.
De la société.
À différents degrés de chacun, quoi. Et là, dans le livre, là, je mets plus l'accent sur les vétérinaires, par exemple, à qui on pense pas souvent quand on parle de la violence. On dit du mal des éleveurs, on dit du mal de ci et de là, mais les vétérinaires, on n'en parle pas, alors que pourtant, historiquement, ils ont vraiment collaboré à la construction de ces systèmes industriels. D'ailleurs, ça ne se serait pas fait sans eux, hein, ni au 19e siècle, et encore moins dans les années 50, au moment où, grâce aux antibiotiques, aux vitamines de synthèse, toutes ces théories de l'exploitation des animaux comme matériaux vont vraiment être mis en acte. Sans les vétérinaires, ce ne serait pas fait. C'est eux qui ont collaboré à faire tenir les animaux dans ces systèmes. Bah, par exemple, grâce aux médicaments, grâce aux vaccins, Donc voilà, en fait, on s'aperçoit que tous ces systèmes, s'est développé et tient grâce au consentement de différents acteurs, les techniciens des coopératives, les cadres de ces coopératives, les banquiers, tout un...
Consentement qui va très loin, peut-être juste pour terminer sur les vétérinaires et sans vouloir nécessairement jeter uniquement la pierre sur eux, mais tout de même, effectivement, je pensais en vous écoutant que ce consentement est allé jusqu'à accepter de vacciner des millions de brebis alors qu'on ne savait pas du tout si ce vaccin pouvait leur faire du mal ou pas, et de fait, on a constaté que ça leur faisait du mal, ça a provoqué énormément d'avortements. Consentement aussi à des massacres de masse. Lorsque on décrète qu'il faut tuer des bêtes atteintes de fièvre aphteuse ou parce qu'on craint une grippe aviaire comme cette année et qu'on a tué l'ensemble des volailles de Dordogne et du Gers, à la fois un consentement et en même temps, Jocelyne Porcher, j'ai découvert justement dans ce livre, le yin et le yang, que le taux de suicide est extraordinairement élevé chez les vétérinaires. Et là, on rejoint ce que vous disiez, la boucle est bouclée sur cette souffrance qui rejaillit sur les hommes.
Ben oui, c'est des chiffres américains là, que je cite, parce que je n'ai pas trouvé les chiffres en France et en Europe. Mais oui, c'est quelque chose qui a émergé là, dans la conscience des pouvoirs publics et de tout cet encadrement, que les taux de suicide en élevage et chez les vétérinaires étaient en augmentation et bien supérieurs à...
2 à 3 fois plus élevé.
Ouais, voilà, à la moyenne nationale. Donc, et c'est vrai que rapprocher cette tentation du suicide chez les vétérinaires et chez les éleveurs, c'est vraiment faire le bilan vraiment dramatique de ces systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est que ce système qui maltraite les animaux, enfin maltraiter c'est peu dire, conduit les éleveurs au suicide, même si les éleveurs qui suicident ne sont pas forcément des éleveurs qui travaillent en système industriel, mais toute la pensée de l'organisation de nos relations aux animaux, elle est fondée sur l'idéologie productiviste, et elle a des conséquences même sur, par exemple, un éleveur allaitant, un éleveur de vaches allaitantes du Cantal. Voilà, il n'est pas dans un système industriel, mais rejaillit sur lui toutes les conséquences de ces systèmes, quoi, et qu'il pousse à aller se pendre dans la grange, quoi. Pareil pour les vétérinaires, quand on voit effectivement le hiatus qu'il y a entre, je pense, le désir de quelqu'un de faire ce métier, et puis au bout du compte, ce qu'il fait dans sa profession, je pense que oui, il y a des gens qui doivent en être désespérés, quoi. Je pense que beaucoup font ce métier parce qu'ils aiment les animaux, ils ont envie de servir les animaux, puis finalement, ils en arrivent à travailler, mais vraiment contre les animaux, quoi. Comme d'ailleurs les éleveurs, quoi. Arriver de faire l'inverse de ce qu'ils voudraient faire.
Téléchargez ou réécoutez cette émission sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et une liste de différents ouvrages écrits par Jocelyne Porcher. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi. Préparation, Laurence Genepin. Revue de web, Anne Gouzon. Mixage, Philippe Mercher. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.